Bonsoir. La situation sécuritaire est redevenue calme, mais encore imprévisible dans Rougarie Centre, au Nord Kivu. Théâtre des affrontements une semaine plus tôt entre les FRDC et les présumés rebelles du M23. Ce constat a été établi lors d'une rencontre entre les forces de la MONUSCO, les autorités et les notables locaux. Rappelons que dans la nuit de lundi 24 à mardi 25 janvier dernier, les présumés rebelles du M23 ont attaqué les positions des FRDC dans les villages de Niesisi et Ngougo, à Rougarie, dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Selon plusieurs sources, cette attaque aurait fait d'importantes pertes du côté de l'armée et a causé un déplacement massif des populations. Quelle analyse faire de la réapparition des éléments du M23 dans cette région? Qu'en est-il de la mise en œuvre de la consigne entre le gouvernement congolais et les M23? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 1er février 2022. Participe au débat Maître Londo Mafuta, conseiller au mécanisme national de suivi à la cellule thématique sur la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier dans la partie est de la RDC. Il est le point focal du MNS en Ituri. Maître Londo Mafuta, bonsoir.
Bonsoir madame, je salue vos auditeurs et je salue également mes co-débatteurs, merci.
Professeur Jacques Njoli, député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Professeur Jacques Njoli, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi et à vos co-débatteurs.
Et le professeur Onespor Sematumba qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est analyste pour la région des Grands Lacs au sein des International Crisis Group, organisation internationale qui étudie les conflits au niveau mondial. Vous êtes très nombreux, auditeurs de Radio Kapi, à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Vital Nyunda de Bukavu Sud-Kivu. Le gouvernement congolais devrait anéantir ce mouvement le plus tôt possible car ces rebelles risquent de se réorganiser et réserver une surprise à notre armée. Kakule Kyowire depuis la ville de Butembo au Nord Kivu. Le gouvernement doit imposer la paix. Cette situation se répète à cause des négociations que font le gouvernement avec ses groupes armés. Il faut la tolérance zéro pour tous les groupes armés. Les forces de sécurité doivent réellement faire leur travail, chacun à son niveau. Le service de renseignement, la police et les FRDC. À Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Kapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Depuis le début du mois de novembre 2021, les positions des forces armées de la RDC sont visées par des attaques de l'armée révolutionnaire congolaise ARC du M23 dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Le mois dernier, entre le 24 et 25 janvier, les combattants de cette rébellion ont mené durant 2 jours des incursions sur les positions de l'armée à Niesisi et à Ngougo, à 13 kilomètres au nord-est de la localité de Rougarie, faisant plusieurs morts, dont un officier supérieur des FRDC. Mais dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la branche armée du M23 a déclaré avoir répliqué uniquement aux attaques de leur position par les FRDC. Son porte-parole a indiqué que le M23 attend jusqu'à ce jour la mise en œuvre de la feuille de route signée à l'issue des accords avec le gouvernement congolais en 2019 à Kigali, au Rwanda. Qu'en est-il exactement de ces accords? Des précisions dans ce papier de Gisèle Cage rendu par Fulbert Balolagué.
En 2019, le mécanisme national de suivi des accords cadres, représenté par M. Patrick Mutombo, avait repris des pourparlers avec les délégués du M23 à Kigali, au Rwanda, sous la facilitation du gouvernement rwandais. D'abord, en date du 11 au 12 juillet 2019, les partis ont convenu sur un certain nombre de points concernant notamment les retours ainsi que l'amnistie des membres de ces mouvements. Concernant l'amnistie, le gouvernement congolais avait accordé l'amnistie à tous les M23, même à ses dirigeants accusés de faits insurrectionnels, faits de guerre et l'infraction politique. Le gouvernement de la RDC avait accepté notamment les rapatriements des M23 en RDC et leur réintégration politique, ainsi que leur réintégration au sein de l'armée après les mécanismes d'IDR, pour ne citer que ceci. Les deux délégations se sont réunies une fois de plus à Kigali le 28 octobre 2019. À l'issue de cette rencontre, une feuille de route détaillant les différentes opérations liées au rapatriement des M23 avait été signée entre les deux parties, toujours sous la facilitation de Kigali. Mais l'exécution de cette feuille de route peine à être exécutée par les gouvernements congolais. La délégation du M23, composée notamment de son secrétaire exécutif, Benjamin Bonimpa, qui avait séjourné pendant 18 mois à Kinshasa, avait regagné son fief sans aucune garantie du gouvernement quant à la mise en œuvre de la feuille de route selon nos sources. Même si le M23 a indiqué qu'il ne peut s'engager dans des hostilités avec le FRDC en ce moment où les partenariats avec le gouvernement se portent mieux, certains analystes pensent que la branche armée du M23 qui se trouve sur le sol congolais, en plein parc de Virunga depuis le 14 janvier 2017, veut pousser les dirigeants congolais à exécuter ce qu'il avait signé.
Maître Londo Mafuta, conseiller au mécanisme national de suivi à la cellule thématique sur la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier dans la partie est de la RDC. Vous êtes le point focal du MNS en Ituri. Depuis quelques jours, les M23 ont fait leur réapparition dans le territoire de Rutshuru. Ils ont attaqué deux positions de l'armée congolaise. Comment on peut expliquer cette réapparition des éléments M23 dans cette partie du pays?
Merci madame, mais on doit déjà commencer par condamner ce qui est arrivé à cette attaque ignoble qui ne se justifie pas, qui cause le perte en vie humaine, qui est pratiquement basé sur une revendication qui ne se justifie pas, parce que en réalité, ce groupe a été défait, comme vous le savez, et ce groupe a un certain nombre d'engagements avec l'État congolais, et ces engagements obligent à ces derniers de ne pas se mettre dans le schéma des hostilités. Et revenir sur les hostilités serait pratiquement mettre un clou sur les engagements que ce même groupe a pris vis-à-vis de l'État congolais. Mais je devais aussi saluer ici la bravoure de nos forces armées qui ont vraiment pratiquement répliqué à l'ennemi et qui ont montré de quoi elles sont capables. En réalité, on ne peut pas agir avec des chantages pour n'est-ce pas chercher à se faire parler de... Merci.
Ce groupe devrait agir comment? C'est que les pourparlers avaient repris entre le gouvernement et le M23 à Kigali, au Rwanda, sous la facilitation du gouvernement rwandais. Un certain nombre des points avaient été convenus entre les deux parties. C'est notamment le retour ainsi que l'amnistie des membres de ce mouvement. Est-ce qu'on en est avec cette feuille de route signée à l'issue des accords entre le gouvernement congolais, les M23, en 2019 à Kigali, au Rwanda?
Oui, madame, la feuille de route a été signée entre les deux parties, mais l'exécution de cette feuille de route a connu quelques problèmes indépendants de la volonté donnée de l'État congolais. Vous savez, madame, comme nous, qu'au niveau étatique, il y a eu ce qu'on appelait beaucoup d'événements qui se sont succédés, notamment avec le parlementaire, avec le bousculement de la majorité. Il y avait des questions de politique interne qui étaient plus essentielles, qu'il fallait gérer à tout prix avant de pouvoir évoquer. Et cela ne voudrait pas dire que ça empêchait l'État congolais à pouvoir exécuter, n'est-ce pas, de bonne foi ses engagements.
Cette question des M23 n'est pas prioritaire.
La question sécuritaire demeure une question prioritaire. Mais vous savez, comme moi, que par exemple, la question d'amnistie, c'est une question qui doit être débattue au niveau du Parlement. Okay? Et il faut que ce soit classé dans le calendrier et que dans le calendrier, on débat. Et à ce moment-là, on en arrive à une loi d'amnistie.
Mais oui, le gouvernement avait accordé déjà l'amnistie à tous les membres du M23 et même à ses dirigeants accusés des faits insurrectionnels, faits des guerres et infractions politiques.
Oui, madame. Cette loi d'amnistie que vous dites là, en fait, c'est en fait bon, la loi d'amnistie qui existait jusque-là a été, à mon avis, c'était une loi qui devait être révisitée pour, n'est-ce pas, adapter cela à la réalité sur le terrain. Parce que entre-temps, il n'y a pas que le M23 qui réclamait la loi d'amnistie. Il y a aussi d'autres groupes, par exemple, en Ituri. Vous savez ce qui s'est passé avec la FPI. Alors, il fallait que la RDC prenne un modèle de loi d'amnistie dont le gouvernement estimait adapté par rapport rapport aux situations des différents groupes. Alors, il fallait adapter cette loi-là. Alors, au vu des événements internes, notamment sur la politique interne du pays, eh ben, cela n'a pas permis à ce qu'on en arrive à cette réalité-là pour l'adaptation de la nouvelle loi.
Qu'en est-il du rapatriement des M23 en RDC et leur réintégration politique, ainsi que leur réintégration au sein de l'armée? C'est aussi quelque chose que le gouvernement avait accepté lors de la signature de ces accords avec le M23. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Oui, madame, je pense que je vous ai dit qu'il y a un certain nombre d'engagements qui a été pris au niveau de l'État congolais. Il y a des avancées, vous en savez, autant que moi que depuis un certain temps, il y a eu la création du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et démobilisation et réinsertion communautaire et stabilisation, en fait. Alors, ce programme a été créé justement pour gérer des questions pareilles. Donc, la réintégration M23, ce sont des questions qui devront être gérées par ces programmes, parce que quand l'État congolais prenait même ses engagements, on n'avait pas de structure pareille qui est gérée. Mais aujourd'hui, nous avons la structure qui fonctionne même, qui a dernièrement adopté, n'est-ce pas, son plan opérationnel et a adopté, n'est-ce pas, son plan stratégique de travail, donc, qui va être très bientôt là validé par les comités de pilotage. Donc, ce sont des évolutions qui se font au niveau État pour, n'est-ce pas, pousser à ce que l'État congolais arrive à donner réponse à ces mouvements.
Ces M23 sont accusés par l'armée de semer la sécurité dans cette partie du pays. Je suis sûr que vous avez lu l'interview du président rwandais Paul Kagame qui demande aux autorités congolaises de récupérer les combattants M23.
Oui, madame, malheureusement l'interview du président rwandais, je ne l'ai pas lu, mais par rapport à l'insécurité que ces groupes créeraient au niveau de Rutshuru. Madame, je vous ai dit que ces groupes ne pouvaient pas, au regard des réalités des faits ou au regard des avancées qu'ils ont avec l'État congolais, ne pouvaient pas marcher à contre-courant.
Quelles avancées, puisque la feuille de route signée avec le gouvernement n'a pas encore été appliquée?
Madame, ces groupes ne vont pas vous dire les calendriers de la feuille de route signée, ne vont pas vous donner les calendriers d'exécution de la feuille de route signée avec l'État congolais. Alors, je vous ai dit qu'au niveau étatique, il y a un certain nombre d'avancements, un certain nombre d'évolutions qui arrivent pour, n'est-ce pas, trouver solution aux différentes questions. Je vous ai parlé des programmes des DRCS ici. Hein, vous voyez, madame, c'est toujours dans le cadre d'exécution de la feuille de route, n'est-ce pas, de ces mouvements.
Professeur Jacques Joly, député national et vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Professeur, comment vous analysez la réapparition des éléments du M23 dans le territoire de Rutshuru où ils sont accusés de semer la sécurité et de piller la population?
Madame, avant toute chose, qu'il me soit permis de présenter mes condoléances aux forces armées de la République démocratique du Congo qui ont perdu un vaillant officier, le colonel Ndoumé, et avec lui plus ou moins une dizaine de jeunes gens qui s'y sont engagés pour défendre l'intégrité du territoire. Madame, cette histoire de M23, d'abord, comme l'a dit mon prédécesseur, ils ont été défaits. Ils n'ont pas quitté la République démocratique du Congo de leur propre bonne volonté. Nous avons eu à négocier avec eux en 2009, et en 2009, donc, ils ont pris ces noms-là d'M23. Ils ont intégré les forces armées, ils ont eu des grades, ils ont eu même un général Tangata, mais d'eux-mêmes, ils se sont mutinés pour des raisons qui leur sont propres pour créer ces mouvements dits M23. Et nous les avons défaits. Ils sont allés au Rwanda comme réfugiés et ils sont supposés être, n'est-ce pas, casernés en Ouganda ou au Rwanda. Mais voilà que ces bandits quittent le Rwanda pour venir s'installer dans le parc, commencer à faire des opérations de braconnage, d'insécurité et à distraire la République et engager dans une opération d'état de siège pour combattre les autres groupes armés. Il est clair maintenant que le M23, mais de toute façon c'était une évidence, joue la carte du chantage des dix. Comme ils voient que nous sommes en train de faire un travail de titan pour réduire le mouvement tel que les ADF Nalu et d'autres, voilà qui profite de ces temps-là où nous avons engagé nos forces pour opérer ces opérations de distraction, de déstabilisation. Ils ont fait la première attaque il y a quelques mois à Runyoni. On les a déguerpis. Maintenant, ils attaquent Rugari. Et vous voyez qu'ils opèrent toujours le long de la frontière ougando-rwandaise. Donc, ils bénéficient, donc, ils ont leur base arrière. Moi, je crois que prétexter des accords qui auraient été signés, mais les accords en matière de conflits internationaux doivent passer par le Parlement. Nous, on n'a jamais vu un accord. Et même s'il y a eu des accords, ces gens-là, l'M23 a intégré, qui est le successeur de CNDP, successeur des autres mouvements, ils ont intégré le gouvernement, ils ont occupé des postes, ils ont intégré l'armée. Donc, moi, je crois que c'est du chantage qu'ils font à la nation, et ils veulent profiter, n'est-ce pas, aujourd'hui, de la concentration opérationnelle que nous avons avec l'Ouganda pour nous distraire. Mais ils doivent savoir qu'ils seront écrasés. Ils parlent de quelle feuille de route?
Il y a eu des pourparlers avec le gouvernement congolais en 2019, je l'ai dit dans mon introduction, ça s'est passé au Rwanda sous la facilitation du gouvernement rwandais. Les partis ont convenu.
Le gouvernement rwandais devait, lorsqu'on négocie de bonne foi, on reste dans la position des négociations, on ne prend pas les armes. Lorsque vous prenez les armes, c'est que vous n'avez pas respecté le clause. Vous avez vous-même renoncé à l'accord. Ils sont au Rwanda comme plus ou moins des réfugiés. Dans les cas, ils ont quitté le Rwanda pour créer le désordre ici, pour tuer des officiers. Ce sont des bandits qui doivent être traités comme tels.
Alors, je vais vous reprendre un extrait de l'interview que le président rwandais a accordé à Jeune Afrique concernant les M23. Il dit ceci, quand le M23 s'est désintégré, certains de ses éléments sont venus au Rwanda, d'autres sont allés en Ouganda, d'autres enfin sont restés au Congo. S'agissant de ceux qui sont au Rwanda, nous avons régulièrement parlé de leur sort avec le gouvernement de Joseph Kabila, puis avec celui de Félix Tshisekedi. Nous avons fait comprendre à nos pères que nous avions désarmé ces individus, nous les avons mis dans des camps et nous devions surveiller leurs activités. Cette situation n'a que trop duré, nous avons donc demandé aux Congolais de les reprendre quel que soit l'endroit où ils les mettent. Votre réaction?
Mais quand est-ce qu'il va reprendre les ex-DLR chez lui? Quand est-ce qu'il va prendre les ex-DLR chez lui? Nous avons fait des efforts. Nous avons, dans un processus, nous avons 140 groupes armés. Pourquoi ce président rwandais profite du moment où nous sommes engagés avec l'Ouganda pour rétablir la sécurité à l'Est, pour nous donner des leçons, soi-disant des leçons, sur le modèle de traitement des M23? Il ne sait pas que lui, il a la responsabilité étatique de tous les ex-DLR, les M23, nous les avons détruits à temps. Et ils sont partis, un groupe est à nous. Ouganda, et notre groupe est au Rwanda. Nous avons des éléments d'information que le groupe qui est attaqué quitte le Rwanda pour passer par des frontières poreuses que nous avons pour venir s'installer. C'est sa responsabilité. Il n'a pas de leçons à nous donner, madame.
Mais est-ce que le gouvernement, professeur Jacques Joly, n'a pas une part de responsabilité? Comme l'a dit cet auditeur Kakoulé depuis Boutembo, qui pense que le gouvernement doit imposer la paix. Cette situation se répète à cause des négociations que font les gouvernements avec les groupes armés. Il faut la tolérance zéro pour tous les groupes armés. RDC.
Je suis totalement d'accord avec cet auditeur. Cette situation est favorisée par la vision que l'ancien pouvoir avait d'une armée infiltrée. Nous prenions chaque fois ces généraux, ces deux colonels, ces caporaux de l'armée rwandaise et des autres bandes armées qui entraient dans notre armée pour nous fragiliser. Ce sont des infiltrés. Aujourd'hui, ils viennent comme des réfugiés, ils se cachent. Maintenant, on a même attrapé quelques noyaux de ces bandits-là du côté des Massissi. Mais il faut une réponse militaire claire. Ils doivent être traités comme des criminels. Et nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux qui refusent de prendre leurs propres compatriotes qui sont chez nous.
Et donc, les accords signés avec le gouvernement doivent tomber caducs, ne doivent pas être exécutés.
Madame, je vous dis que l'article 214 de la Constitution dit que les accords en matière de règlement des conflits internationaux, parce qu'il s'agit d'un conflit où il y a plusieurs pays qui sont impliqués, la loi d'amnistie, ça passe par le Parlement. Donc nous attendons que le gouvernement nous dise de quoi est-ce qu'ils se sont engagés avec ces gens-là. Ça doit se terminer, cette histoire de régler de conflits armés par les mixages, par les brassages. Cette infiltration nous a amené des officiers rwandais. On doit terminer avec cette histoire. La puissance du Congo, la bonne gestion du Congo, la restauration de l'autorité du Congo appelle ces États là-bas à s'enrichir sur le dos et les richesses des Congolais.
Merci, professeur Jacques Joly. La réalisation me signale qu'on n'arrive pas à joindre le professeur en espoir. C'est Matumba. À la place, nous avons Timothée Tshaombo Soutcha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Timothée Tshaombo, bonsoir.
Bonsoir Madame Kélinikouti, bonsoir à tous mes co-débatteurs. J'ai l'impression que là, le professeur Njoli est aussi co-débatteur, je les salue.
La situation sécuritaire est redevenue calme, mais encore imprévisible, dans Rougari Centre, Nord Kivu, théâtre des affrontements, une semaine plus tôt entre les FRDC et les présumés rebelles du M23, qui sont censés être cantonnés dans des camps au Rwanda et en Ouganda. Comment vous expliquez cette réapparition des éléments du M23 dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu?
Merci madame. Je ne vais pas m'hasarder de donner avec précision le fait que ces mouvements ressurgissent aujourd'hui, mais il faut restituer le contexte. Le M23 n'était pas désarmé, démobilisé. Ce mouvement était juste repoussé. Et donc cantonné, comme vous l'avez dit, au Rwanda et en Ouganda. Deux contextes peuvent expliquer cela. Le contexte international, où nous avons la nouvelle guerre froide liée à la transition énergétique, et que donc nos minéraux qui rentrent dans cette technologie d'aujourd'hui, ce n'est plus une technologie de demain. Il faut contrôler des territoires. Et aujourd'hui, l'échiquier de la politique internationale est plus situé en Afghanistan, en Syrie. C'est dans les pays d'Afrique, on a du cobalt même au Mali, on en a en RDC, et puis beaucoup d'autres minéraux qui sont dans le Kivu, qui rentrent, comme je l'ai dit tantôt, dans la nouvelle technologie. Donc, il faut appliquer la théorie du professeur, du politologue, je veux dire, géopolitologue français, François Tchoual, qui disait « contrer pour contrôler ». On va contrer un espace de territoire à une situation d'instabilité pour contrôler, pour gérer. C'est ainsi que nous avons ce mouvement. Ça, c'est le contexte international. Et pourquoi ils ont été cantonnés au Rwanda et en Ouganda? Il faut rentrer dans l'anthropologie congolaise, généralement dans les Kivu. Le mouvement M23 vient du RCD Goma et du CNDP. Et donc aujourd'hui, M23, et les revendications, si vous rappelez bien, Madame Kelly, écoutez, les revendications du M23, du RCD, de CNDP, sont généralement communautaires, identitaires. Nous sommes le Tutsi congolais, nous sommes Banyamulenge, nous sommes maltraités, alors que dans ce pays-là, il y a plus de centaines d'officiers rwandophones. Ils ont été vice-présidents de la République, ils sont dans l'administration de l'État, ils sont dans les finances. Les revendications communautaires cachent généralement des intérêts stratégiques internationaux. Donc, on veut créer un espace où on doit exploiter le minerai. Nous avons plus de mètres frontières. Nous avons des frères qui sont à Kigali, d'autres sont à Goma. Nous avons des frères qui sont en Angola, d'autres sont au Congo. Il y en a qui sont en Centrafrique. Nous sommes créés comme ça. Je ne refuse pas cela. Mais cela explique un petit peu la situation. Et donc, lorsque le gouvernement congolais n'arrive pas à appliquer sur le plan diplomatique ces revendications, eh bien, le mouvement trouve des raisons de faire la résurgence. Deuxième hypothèse, qui est une hypothèse interne, il faut savoir que, et là je me poserai la question de savoir si, et là vous me permettez que je fasse un petit pas en arrière, il faut savoir aussi qu'un mouvement, la guérilla, ou un mouvement armé, un mouvement rebelle ou un mouvement terroriste ne peut pas opérer s'il n'a pas de base arrière. J'insiste. Ils ne peuvent pas opérer s'ils n'ont pas, s'ils sont nombreux, des bases arrière. Donc, je reviens à la question. Vous avez le président Kagame et le régime de Kigali qui est en parfaite collaboration avec le gouvernement congolais sous Félix Tshisekedi. La même chose avec l'Ouganda. Alors la question, est-ce que le M23 aujourd'hui, qui a été autrefois, les Nations Unies l'ont attesté, totalement armé par le Rwanda, échappe au contrôle du président Kagame et que donc il conjugue avec les forces centrifuges internes, ou c'est parce que Paul Kagame a été mécontent, il n'était pas content du tout de l'état de siège et que le président Tshisekedi est allé faire aussi une alliance avec son pire ennemi à Kigali, que le Rwanda déclenche la situation de M23 dont la partie a été cantonnée dans son pays? tous ces éléments doivent être mis à table par le mécanisme conjoint de suivi.
Selon le président Kagame dans Jeune Afrique, cet activisme des éléments M23 ne concerne pas le Rwanda. Le Rwanda n'est pas derrière cette situation. Il demande d'ailleurs aux autorités congolaises de récupérer tous ces combattants qui traînent encore au Rwanda.
Ah ben voilà, est-ce que moi je pourrais vous retourner la question autrement? Avez-vous vu un jour le président Kagame accepter un seul crime, un seul mouvement qui est en RDC? Il n'est pas le seul à détenir la vérité, le monde entier l'a attesté. Les chercheurs les plus importants que moi, les professeurs d'université, les chevronnés, les savants ont écrit là-dessus. Je ne me fie pas. Lorsqu'on sait qu'hier il n'était pas content du fait que le président Tshisekedi ait déclenché l'état de siège dans le Kivu, j'ai dit dans une de vos émissions ici, j'ai dit que cette situation a bloqué même la production de l'or, du coltan, des minerais, et que les usines dans les pays voisins, à Kigali, ils n'ont pas des minerais là-bas. Les usines sont quasiment à l'arrêt. Donc,
entre-temps, Timothée Tshaombo, il y a cette feuille de route signée à l'issue des accords entre le gouvernement congolais et les M23 en 2019 à Kigali au Rwanda.
Oui, mais le problème, c'est que l'application de ces revendications pose problème. Et c'est pour cette raison que je parlais du mécanisme de suivi qui doit se mettre en place avec des experts pour que cela soit appliqué. Mais seulement, Madame Kelly, c'est compliqué d'appliquer ces accords parce que les accords vont au-delà de ce que le Congo peut accepter. Le M23 vous dit qu'il faut rapatrier tous leurs frères et sœurs, entre guillemets, c'est-à-dire les Nilotiques qui sont au Rwanda, qui sont en Ouganda, etc., et leur donner collectivement une nationalité, alors que personne ne maîtrise le nombre de ces gens. Il y a beaucoup de revendications comme ça qui posent problème lorsqu'on analyse la situation. Toutes celles et ceux qui veulent s'installer dans notre pays sont libres, ils peuvent venir. Mais l'octroi de la nationalité, elle est individuelle, elle ne peut pas être collective, c'est au cas par cas. Donc, il y a des revendications qui peuvent mettre les intérêts politiques du pouvoir à Kigali en fragilité de se faire élire même en 2023, si aujourd'hui le président Tshisekedi accepte immédiatement de mettre en application tous ces accords. Sans voir l'intérêt de la RDC, nous ne sortirons pas de l'affaire. Donc, la question telle que vous l'avez posée, il faut savoir qu'il y a des implications régionales, internationales, mais aussi des implications locales de certains mouvements politiques centrifuges. N'oubliez pas que le M23 s'est mué en parti politique. N'oubliez pas cela. Et de la majorité de l'ancien régime de Joseph Kabila, est-ce qu'aujourd'hui les uns et les autres ne seraient pas derrière ce mouvement pour pousser le président Tshisekedi au dialogue qu'une force de l'opposition l'avait demandé à un moment, et que derrière le M23 qui est surarmé, il faut savoir d'où viennent ces armes, parce que beaucoup de nos militaires sont tombés sous le front, on ne donne pas ces informations à Kinshasa, mais c'est cela. Il y a beaucoup de deuil parce que nos compatriotes qui sont militaires sont tombés. Le M23 est surarmé avec des armes de pointe, et il faut savoir quel couloir des armes, le mécanisme conjoint doit nous le dire, quelles sont les complicités internes, et à ce moment-là, oui, il faut avoir un volet diplomatique, il faut avoir un volet politique, mais oui, il faut avoir un volet militaire, parce que tout le temps, on assassine des compatriotes et on revient à table de négociation, ce n'est pas normal.
Merci Timothée, on va prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à appeler pour donner aussi leur point de vue. Maître Lando Mafuta, on va suivre cet auditeur qui nous appelle depuis Kolwezi dans la province du Lualaba.
C'est Patrice Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. La réapparition des éléments du M23 dans cette région prouve que le gouvernement congolais n'a pas honoré ses engagements pris avec ses rebelles. Lorsque le gouvernement accepte de signer certains accords avec les groupes armés dont il est incapable de respecter, il doit être conséquent. C'est aussi l'énigme qui est à la base de la confusion qui règne dans cette partie du territoire national. Il y a aussi l'inefficacité de plusieurs opérations mises en place contre ces délinquants qui sèment le chaos. Les différents gouvernements qui arrivent commettent les mêmes erreurs. Aucun d'eux prend des engagements fermes pour résoudre la problématique du Grand Kivu. Toutes les recommandations issues des pourparlers de Kampala sont restées de lettres mortes. Tant que les autorités congolaises ne prennent pas la décision de briser la glace, rien ne changera là-bas. Si réellement on veut mettre fin à cette guerre, il faut traquer les tireurs de ficelles qui sont plein dans les institutions du pays et au sein des FARDC.
Maître Londo Mafuta, que pensez-vous du point de vue de Patrick Mbouli depuis Kolwezi?
Merci madame, je pense que je n'appuierai pas votre l'auditeur Patrick qui pense que le gouvernement de son côté n'a pas respecté les engagements à partir du moment où lui Patrick ne sait pas les calendriers de ses engagements, les calendriers pour l'exécution de ses engagements. Je parlerai plutôt de ce qu'a dit le professeur Njoli, qu'il fallait que ce groupe évite de la manipulation et du chantage. Hein, ça ne sert à rien de pouvoir venir sur des chantages, ça ne sert à rien de pouvoir revenir sur de la manipulation qui conduirait certainement à ce groupe de ne pas avoir ce qu'il pense avoir. Donc, en réalité, il faudra que ce groupe sache qu'à partir du moment où elle est sur la table, elle s'était engagée avec le gouvernement congolais, il n'est plus autorisé de pouvoir recourir aux armes. Et sinon, à ce moment-là, ça brise l'équilibre et ça brise, n'est-ce pas, les soucis d'application de ce que l'État congolais s'est engagé. Voilà.
Alors, Maître Londo, Patrick Mbouli estime aussi qu'il faut traquer les tireurs des ficelles qui sont nombreux dans les institutions de la RDC et même au sein des FARDC.
Oui, madame, je pense que cette question-là, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a au cours d'une réunion de conseil de ministres revenu sur ça. Et je crois que je ne suis pas dans un service de sécurité ou d'enquête quoi que ce soit. Il faut peut-être laisser le temps au temps à ces services d'y travailler afin de pouvoir, n'est-ce pas, arriver jusqu'à des conclusions qui pourront peut-être amener à des noms que nous ignorons jusqu'ici et qui seront peut-être pris demain et qui vont répondre devant la justice congolaise.
Professeur Jacques Joly, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
C'est Bolingo, c'est Bessie Michael à partir de Goma. La présence d'M23 dans cette partie, c'est l'incompétence du gouvernement congolais quelque part à gérer le pays. Comment expliquer la présence de ce groupe armé sur le sol congolais chaque fois? Et pourtant, nous savons que ce dernier réside au Rwanda et en Ouganda. Le pays doit prendre ses responsabilités à main et répondre favorable à les revendications si réellement il en existe. On avait constaté que l'ancien gouvernement avait balayé l'eau de la cour sans fermer les robinets, chercher la solution durable. L'État congolais doit bien maîtriser ses effectifs militaires car il semble que l'armée est infiltrée, car on ne sait pas là où ce dernier tire les informations et des renseignements pour être sur le sol congolais. Et pour atteindre, mais aussi l'État congolais doit améliorer les conditions socio-économiques des militaires, des médecins, des enseignants pour éviter ce genre de récidive. Je dis et je vous remercie.
Professeur Jacques, une jolie brève réaction.
Il y a à boire et à manger dans ce que dit votre auditeur. Ce qu'il faut, il dit que le gouvernement congolais s'est montré incompétent. Oui, cette insécurité qui frappe nos frères de l'Est dure depuis plus de 20 ans. Et depuis la décennie 90, on ne peut pas dire que le gouvernement congolais n'a rien fait pour ses mouvements et ses prédécesseurs. L'RCD a pu entrer au gouvernement, les éléments du CNDP ont pu être intégrés, n'est-ce pas, dans l'armée et dans les institutions, et même les éléments du M23. Je crois que leur mentor, le président Kagame, a dit qu'il y a même eu des ministres. Ils sont entrés comme parti politique. Donc comment un parti politique qui a été autorisé à participer à l'expression du suffrage et à occuper des fonctions se transforme en un mouvement rebelle pour tuer des officiers? C'est là où nous les Congolais devons comprendre, comme l'a dit nos collègues de Nouva, qu'il y a une instrumentalisation de ces mouvements
pour créer des conditions d'insécurité, donc une insécurité instrumentalisée pour permettre le pillage de nos ressources et le fonctionnement de ces économies de guerre qui favorisent, n'est-ce pas, le développement de ces entités. Donc, si vous prenez les réclamations du M23 depuis 2009, 2012, 2013, et ce sont parfois des réclamations fantaisistes. Ils vous demandent, par exemple, d'ouvrir des supermarchés, ils demandent le respect de la vérité des urnes. Tantôt, c'est de la distraction. Mais cette distraction, malheureusement, est favorisée par la faiblesse de notre armée. Et la réponse, nous sommes d'accord, elle doit être holistique, globale. Il y a une solution militaire qui consiste à renforcer notre outil militaire pour que cesse ces chantages. Mais il y a aussi des solutions diplomatiques. Nous avons, je crois que le président Félix a montré beaucoup de bonne foi et vis-à-vis de nos voisins du Rwanda et même de l'Ouganda. Mais lorsqu'on écoute leur président du Rwanda, c'est comme si il veut devenir proconsul. Si nous devons déclarer l'état de siège, il faut qu'on aille lui demander la permission. Lorsque les troupes ougandaises viennent chez nous, il faut qu'on lui demande la permission. Et lorsque nous gérons notre crise, il doit pousser, parce que c'est là, ces gens-là sont écrasés, gardés chez eux, on les envoie pour venir nous distraire. Parce que nos troupes qui sont engagées contre l'ADF et les autres mouvements armés sont maintenant obligées de déguerpir, de dégarnir d'autres fronts pour venir se battre avec cette escroissance qui est une opération de distraction et d'élongation de nos forces armées.
Merci.
Donc, il faut que les Congolais nous puissions comprendre que c'est notre pays qui est visé. La situation des militaires, la situation sociale, on va prendre en charge. Mais dans tous les cas, on ne peut pas accepter ces chantages odieux, c'est-à-dire que vous négociez et que vous attaquez, vous tuez les autres. Ce n'est pas admissible, ni au plan interne, ni au plan international.
Timothée Tchaombo, il y a Stefano Kikukama Mwanga depuis Kindu Maniema, qui dit ceci, le gouvernement congolais se précipite à signer des accords qu'il oublie rapidement. Tout accord non suivi est une bombe à retardement pour le pays, pour la réapparition du M23. Je pense que Kinshasa devrait demander des explications à ces pays d'hébergement, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, comment ces hommes qu'ils gardaient se sont réorganisés jusqu'à recommencer la rébellion. Vu aussi la relation entre Kinshasa et Kigali, le gouvernement congolais peut se ressourcer à celui de Kigali qui a déclaré ouvertement qu'il connaît les tireurs des ficelles qui sont à Kinshasa et ailleurs en RDC. S'il y a vraiment une bonne relation entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, que le président rwandais lui cite les noms de ces tireurs des ficelles, comme il a dit dans son interview dans Jeune Afrique.
Oui, madame. Ma première réaction, c'est que ce n'est pas que le gouvernement s'amuse à signer des accords. Le gouvernement signe toujours, tous les gouvernements du monde signent des accords. Et il faut savoir que nous avons signé les accords dans un contexte où la République était très fragilisée par plus de 145 groupes armés. Il faut le dire, dont les couloirs des armes passent par nos pays voisins, notamment le Rwanda. Donc nous ne sommes pas ignorants des tireurs de ficelles. Les tireurs de ficelles, ce sont celles de ceux qui ont installé les usines des raffineries dans les pays voisins et qui utilisent cette guerre par procuration. Le professeur Njoli l'a très bien dit. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est des réformes sécuritaires. Le président de la République, personnellement, je n'ai pas encore vu sa stratégie sécuritaire, sa stratégie militaire. Il a commencé à réformer au niveau de l'ANR, mais il doit poursuivre avec l'armée, parce que c'est le même appareil lui laissé par son prédécesseur, qui continue jusqu'à présent. Et si cet appareil n'a pas été efficace, malgré nos 23 coopérations militaires que nous avons eues, les 18 ans de Joseph Kabila, nous avons eu 23 coopérations militaires, des formations. Aujourd'hui, le président Tshisekedi doit avoir imprimé sa stratégie militaire. Au même moment que nous poussons sur le volet diplomatique avec le mécanisme conjoint, c'est par là d'ailleurs que le président Kagame pourra verser sur la table de notre expert Ibalanki qui pilote le coordonnateur, qui pilote
le mécanisme conjoint, verser ses informations au niveau de l'état-major général, verser ses informations auprès de son homologue congolais. Mais sur le plan politique, nous devons aller avec les calendriers d'exécution de certaines revendications qui peuvent être vraies sur le plan d'infrastructure, sur le plan de l'unification des nominations des gens. Nous pouvons aller sur ceux qui ne sont pas impliqués par des crimes, parce que le M23, c'est à la fois la branche militaire et la branche politique. Donc, il y a une branche politique, le M23 comme parti politique, qu'il faut maintenir un dialogue politique, mais il y a aussi la branche armée, dont il faut réserver une réponse militaire, parce que les vies sont en danger. En même temps, je reviens et j'insiste qu'il ne faut pas que les Congolais se leurrent avec des déclarations des chefs d'État de la région. Nous connaissons qui sont les ennemis de la RDC. La RDC a un problème, c'est ses ressources stratégiques. Et aujourd'hui, le monde entier va se ruer sur l'Afrique. Tout ce que vous voyez au Mali, tout ce que vous voyez au Tchad, c'est autour de l'exploit de la deuxième guerre froide. Et la deuxième guerre froide liée à la transition, à l'exploitation et au contrôle territoire, qui regorge des stratégies, de minerais stratégiques, connaîtront des situations d'instabilité. Nous sommes comme typiquement comme aux années 60, mais cette fois-ci, les années 60, c'était la guerre froide. Aujourd'hui, la guerre n'est plus idéologique, avec des bombardements, des ceci. Non, ça devient une guerre quasi asymétrique, avec des revendications de type communautaire.
Nous devons en conclusion, Tchaoumbo, Timothée.
En conclusion, réforme sécuritaire urgente. Poursuite de la mise en place de l'exécution du calendrier et réforme militaire. On doit réformer notre appareil militaire.
Maître Nando Mafuta, qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper ces incursions des éléments du M23 qui sèment l'insécurité dans le territoire des Rutshuru?
Évidemment, madame, je pense que ça c'est une question réservée à la stratégie militaire. Qui peut jamais être mise à la place publique.
Vous pouvez proposer.
Au niveau de l'armée, il y a une organisation, il y a une réorganisation qui s'est faite pour, n'est-ce pas, protéger nos populations qui vivent dans ce coin du pays. Deuxième information, c'est que madame, la RDC s'apprête à organiser les sommets des chefs d'État à l'accord cadre d'Addis Abeba, et à l'issue duquel la RDC pourra prendre la présidence de cette organisation. Et la RDC compte proposer des réformes d'accord cadre d'Addis Abeba qui pourraient dans l'avenir nous amener à respirer la paix et puis à parler la paix pour la partie est de notre pays. Alors, ensuite, en fait, il faut peut-être appeler à la mobilisation de tous les Congolais pour cette cause, parce que le professeur nous a parlé qu'il s'agit de la guerre froide et que les Congolais doivent se mobiliser pour barrer la route aux ces ennemis de la paix qui veulent nous amener la guerre par procuration pour le contrôle de nos ressources premières.
Merci.
Et enfin, madame, je crois que il faudrait que ce groupe se rende compte que ce n'est pas par manipulation, par chantage qu'ils peuvent avoir quelque chose de la part du gouvernement congolais.
Merci, maître Lando Mafuta. Professeur Jacques Joly, en 30 secondes, comment stopper ces activités du M23?
Mais le M23, c'est un mouvement militaire, il doit trouver une réponse militaire. Et cette réponse militaire, comme nous dit mes prédécesseurs, passe par la réforme de notre système de sécurité qui a été fragilisé pendant plusieurs années. Et c'est un travail qui est en train de se faire, parce que nous nous battons maintenant pour, dans les cas d'état d'urgence, nous avons déployé des hommes qui sont là. C'est vrai qu'il y a des faiblesses au niveau de l'Assemblée. Nous avons fait une évaluation ici et sur le terrain. Nous espérons que des réformes fortes, structurelles et humaines seront lancées pour mettre notre armée en état de se battre sérieusement et de nous faire respecter comme État. Deuxièmement, les réclamations de soi-disant 23, ce sont les mêmes réclamations que nous avons avec les autres mouvements ou groupes armés internes et les internationaux, nous devons les écraser. Alors, sur ce point-là, nous avons le programme DDR, nous souhaitons ces programmes soient lancés. La situation du M23 n'est pas spécifique. Le programme PDDR est en train de se mettre en place, donc ce n'est pas venant faire la distraction pour nous empêcher de continuer notre opération, qui vont nous empêcher de travailler. Donc nous espérons que ces deux piliers militaires, le désarmement, et puis il faut réformer notre économie pour que nous ne soyons pas les outils de pillage de ces États qui, s'ils veulent coopérer, ben, nous devons construire une économie intégrée tant au niveau national que régional.
Merci,
et
professeur.
Dans la paix et sur le plan diplomatique, je crois qu'il faudra qu'un message soit clair, soit envoyé vers ces pays voisins qui doivent savoir que le Congo n'est pas un objet, mais le Congo c'est un sujet des droits internationaux et que si on doit travailler, on doit travailler dans la clarté et dans le respect mutuel.
Merci, professeur Jacques Njoli. Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser, à préparer cette émission. Guy Maté, Sandra Sifa, supervisée par Martin Sebujangwe. La mise en onde était assurée par Polydor Basunga, présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.